Deutsche Welle. Pulsation.
Visionnaire Africas. En français, les visionnaires de l'Afrique. C'est le titre d'un livre de portraits de personnalités africaines de l'histoire ancienne ou contemporaine. Le docteur Moustapha Diallo en a dirigé la publication. Il s'exprime aujourd'hui dans Pulsation. En fin d'émission, notre coup de projecteur sera dédié aux 25 ans de la décision d'abroger les lois de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais tout de suite, penchons-nous d'abord sur la définition du mot transgenre après que Bruce Jenner, un célèbre athlète américain, est devenu une femme. C'est Yann Durand au micro. Bonjour à tous.
Le saviez-vous ?
Transgenre. Cet adjectif vient du latin trans qui veut dire au-delà, qui exprime une idée de changement, et genus qui signifie sorte, race, espèce. Transgenre, dans son sens le plus répandu, se dit de l'état d'une personne qui s'identifie au sexe opposé à celui qu'elle a eu à la naissance et qui en adopte le style de vie. Cela n'implique pas qu'elle ait eu recours à une réattribution sexuelle. La transidentité, qui découle du mal-être de ne pas avoir un corps conforme à son identité ressentie, regroupe les travestis, les transsexuels, les personnes à identité androgyne notamment. Leur mal-être étant, on s'en doute, d'intensité totalement différente. Le cas de Bruce Jenner est particulièrement spectaculaire parce que ce sportif américain, champion olympique en 1976 du décathlon, une des disciplines les plus exigeantes de l'athlétisme, a été marié 3 fois et père de 6 enfants avant de se soumettre à un processus de réattribution sexuelle pour devenir à plus de 60 ans Caitlyn Jenner. Elle est désormais une figure de proue pour tout mouvement de protestation contre la discrimination dont les personnes transgenres font souvent l'objet. Vous écoutez Pulsation sur la Deutsche Welle. Aminata Traoré, Wangari Maathai, Kwame Nkrumah, Cher Anta Diop, Steve Biko, la princesse Yenenga ou Louis Aniaba, autant de figures qui ont marqué l'Afrique entière ou au moins les pays dont ils sont issus. Un livre paru en Allemagne dresse le portrait de ces héros. 42 personnages dont les parcours, les combats et les succès sont extraordinaires et pour beaucoup d'entre eux, méconnus du grand public. Le Sénégalais Moustapha Diallo, docteur ès lettres modernes allemandes, en est l'instigateur et le directeur de la publication. J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'une lecture à Cologne. Il nous parle de Visionnaire Africas.
En Afrique, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur histoire et nous avons des figures qui ont joué un rôle important dans l'évolution des sociétés africaines et qui ne sont pas tellement connues en Afrique. C'est pourquoi l'histoire m'intéresse. Et d'autre part, on nous a toujours dit que l'Afrique n'a jamais rien créé. Donc, dans l'histoire africaine, comme disait Hegel, ils n'ont pas d'histoire ni de culture, etc. Et ces figures historiques permettent de montrer que ce n'est pas vrai. L'époque contemporaine m'intéresse aussi, mais j'ai moins d'informations à ce niveau parce que je ne suis plus en Afrique. C'est un problème contre lequel je lutte souvent pour essayer de me maintenir informé, mais ce n'est pas facile.
Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors de la réalisation de ce projet dont vous avez été donc le directeur de publication ?
La première difficulté, c'était de trouver des gens, des auteurs appropriés. Donc, j'ai écrit beaucoup de lettres aux maisons d'édition, à des organisations comme le Pen Club en Afrique. Il y a seulement 2 qui ont réagi, c'est le Pen Club de la Guinée et le Pen Club du Ghana. Sinon, les autres n'ont même pas réagi. Alors, il fallait trouver une autre solution. D'autres problèmes, c'était comment envoyer les honoraires aux auteurs en Afrique. Parce que ce n'est pas toujours facile. Ou bien que les gens aient des problèmes de connexion sur Internet pour envoyer leurs textes. Mais en somme, ce n'était pas tellement grave. Ouais.
Des problèmes finalement très terre-à-terre par rapport au contenu de ce livre. Donc on parle de portraits de 42 grandes personnalités de l'histoire africaine, ancienne ou moins ancienne, que l'on qualifie ici de visionnaires. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un visionnaire ou pas ?
Je crois que quand quelqu'un a une idée du monde dans lequel il voudrait vivre, ou bien quand il a un rêve et qu'il fait tout pour atteindre ce rêve, c'est pour moi la définition d'un visionnaire. C'est-à-dire avoir un projet ou bien un rêve individuel de réaliser quelque chose et de tout faire pour atteindre cet objectif. C'est ce que je comprends par visionnaire.
On s'aperçoit assez rapidement, même si on n'a pas lu tous les éléments de ce livre, que chaque histoire, finalement, a un point commun. Et on se demande tout de suite, est-ce que le panafricanisme est vraiment une utopie?
Pour moi, non. Et pour beaucoup d'autres, et je crois que c'est aussi valable pour de plus en plus de gens en Afrique. Parce qu'on parle depuis un peu plus de 10 ans de la Renaissance africaine. Et dans ce cadre, le panafricanisme regagne d'intérêt. C'est ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est-à-dire quand j'ai reçu les textes des différents auteurs, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans ce domaine ou bien qui sont sensibles à l'idée du panafricanisme.
Mais vraiment, ça saute aux yeux, puisque pratiquement tous les gens qui sont décrits, souvent, ils luttent contre les injustices, contre la globalisation, contre le néocolonialisme, et on s'aperçoit qu'ils ont tous les mêmes préoccupations en Afrique.
C'est ça, parce que tous les gens qui sont présentés se sont engagés pour une affirmation de l'homme en Afrique, c'est-à-dire pour faire valoir les droits des Africains et pour affirmer aussi la culture africaine. C'est pourquoi on a ce trait d'union entre les différents personnages, le panafricanisme ou bien l'affirmation de la dignité humaine en Afrique.
Le livre est paru, si je ne me trompe, il y a à peu près un an en Allemagne.
Oui, oui, en mai 2014, oui.
Donc à peu près un an. Je viens de voir ici, lors de cette lecture, qu'il y avait un intérêt assez important pour cette question. Est-ce que l'Allemagne est un pays spécialement ouvert à ce genre d'impulsion?
Je dirais qu'il y a des cercles qui sont ouverts, mais l'Allemagne en général, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas ouverts, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'esprit si ouvert. Mais il y a des cercles qui sont très engagés et c'est pourquoi c'est important de créer des réseaux pour pouvoir atteindre les gens qui pensent à autre chose qu'à eux-mêmes ou à leur société. Parce que le problème en Allemagne, c'est que par rapport à la France, par exemple, en France, ils ont une tradition plus ancienne de contact avec des étrangers ou bien des Africains. Sur ce plan, les Français sont plus habitués, mais ça ne veut pas dire que les Français sont plus ouverts que les Allemands.
J'allais dire, ouais. Puisque l'Allemagne aussi, par son passé, a appris à regarder de près les autres cultures, notamment. Beaucoup de jeunes Allemands ou d'Allemands de la génération juste d'après-guerre ont un peu renié aussi leur pays parce qu'ils n'étaient pas très fiers de ce qui s'était passé. Et du coup, ils ont une espèce d'ouverture, d'intérêt pour l'étranger, même s'ils ne comprennent pas forcément tout des cultures étrangères, mais une ouverture assez importante. Et je me demande si ça n'a pas joué en votre faveur pour pouvoir réaliser ce genre d'ouvrage.
Peut-être que ça a été un facteur ou un avantage pour nous, mais je ne peux pas le dire définitivement. Mais on se rend compte que les Allemands s'ouvrent de plus en plus et qu'ils ont appris de leur histoire et que les choses changent. Mais on aimerait que ça aille plus vite, mais ce n'est pas toujours comme ça.
Un livre qui, en tout cas, est très intéressant, comme vous le disiez, parce qu'on apprend à connaître des personnalités dont il n'est pas vraiment question dans le monde, ou dont il n'a pas été question dans le monde, quand ce sont des personnages historiques. Est-ce que, de votre point de vue, c'est aussi un ouvrage qui serait intéressant de présenter en Afrique, pour que les Africains eux-mêmes, en tout cas de certains pays qui sont concernés par ces personnages, en apprennent un peu plus sur la richesse des personnalités, sur le potentiel qu'il y a eu et qu'il y a en Afrique?
Oui, absolument, parce que c'est même ce que beaucoup d'auteurs m'ont dit. Ils m'ont dit qu'il faudrait absolument que le livre paraisse en Afrique. Les anglophones, les francophones on aimerait qu'ils lisent les livres. Et ils ont même souvent dit que les élèves africains en auraient besoin parce que ça leur permettrait de découvrir beaucoup de choses sur leur continent, leur culture et d'éveiller les consciences en Afrique. C'est pourquoi j'espère qu'on va trouver des partenaires pour la traduction en anglais et en français au moins.
Donc apparemment, ce livre, c'est le début d'une longue aventure.
J'espère que l'aventure va continuer. Ce ne serait pas mal.
Moustapha Diallo, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.
Merci aussi.
Visionnaire Africas est paru en mars 2014 aux éditions Peter Hammer Verlag.
Coup de projecteur.
Le 19 juin 1990 ne s'est pas gravé dans les mémoires et pourtant, ce jour-là, se décidait le sort d'un des régimes les plus injustes qui ait été instauré jusqu'à aujourd'hui. Il y a 25 ans, ce vendredi, le Parlement sud-africain votait majoritairement en faveur de l'abrogation du Separate Amenities Act, la loi sur laquelle se basait le régime de l'apartheid, la loi qui avait légalisé en 1953 la ségrégation raciale officielle dans les locaux publics, les véhicules de transport en commun et d'autres infrastructures publiques. Seules les voies publiques et les rues ont été exclues de la loi. Le texte prévoyait l'obligation de fournir des installations séparées, comme les toilettes par exemple, pour que la ségrégation puisse être appliquée. En pratique, les meilleurs équipements et installations, notamment les écoles, ont été réservés pour les Blancs. L'abrogation n'a été effective qu'en octobre 1990, plus de 3 mois après le vote et plus de 6 après la libération de Nelson Mandela. C'est la fin de ce numéro d'Elixir. Merci de l'avoir suivi. Vous trouverez le podcast dans la médiathèque sur dw.de/français. On se quitte en musique avec Joy Dinalane, chanteuse afro-allemande dans Soweto. Salut à tous.